Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Il y a à Sciences Po un vrai brassage social.
C'est une équipe qui a une résistance incroyable. Ils font le journal et souvent le journal est pas mal.
Ça montre bien qu'il y a un changement rapide, profond.
Il faut le transformer. Ça se fait pas du jour au lendemain.
Non, le changement, c'est maintenant dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de Sciences Po, de pouvoir, de drogue, de plan social, du monde de libération et même de l'aigle à deux têtes. Avec Raphaël Baquet qui signe Ritchie, une enquête sur le directeur de Sciences Po disparu en 2011. Richard Descoings, une personnalité charismatique, doublée d'un personnage au pouvoir romanesque, Zoé Sfez.
L'une des plumes les plus emblématiques du monde s'attaque à nouveau au pouvoir et teste les limites entre biographie romancée, fiction documentée grâce à la figure éminemment paradoxale de Ritchie.
19h30, plateau Libé avec Mathieu Lindon qui publie « Jour de libération » du 7 novembre 2014 au 6 février 2015, le récit au quotidien du journal, dans un moment de crise à la fois professionnelle et personnelle. Toujours Zoé.
Ou comment l'écrivain Mathieu Lindon se penche sur le chroniqueur et critique littéraire qu'il fut et qu'il a été et qu'il reste encore aujourd'hui à Libération.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture, le deuxième d'Adrien Azeli qui s'ouvre sur le son du jour.
Les reportages qui m'ont le plus marqué au cours de ma carrière de grand reporter, ce sont ceux que j'ai effectués au Japon. J'ai été envoyé tout de suite après le tsunami en mars 2011 qui a frappé les côtes du Tohoku et qui a coûté la vie à environ 20 000 personnes. J'ai été envoyé sur place pour couvrir les événements qui se sont traduits aussi par une catastrophe nucléaire donc dans la zone de la centrale de Fukushima. Et très récemment, il y a moins d'un an, je suis retourné une troisième fois au Japon, cette fois-ci plutôt pour voir comment les victimes de ces catastrophes pouvaient continuer à vivre dans les zones qui avait été touché à l'époque.
Bonsoir Adrien Azeli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Alors c'est votre son du jour, il ne date pas d'hier, mais il est d'actualité.
Il est très d'actualité puisque la voix que vous entendez, c'est celle de Jérôme Fenoglio, grand reporter au journal Le Monde. Mi-avril, les actionnaires du journal Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas ont créé la surprise en proposant aux salariés de confier à l'actuel numéro 2 du journal Le Poste, alors qu'il y avait 3 candidats officiellement déclarés. Lui-même avait refusé de postuler par loyauté envers le directeur par intérim actuel après le départ de Nathalie Nougueret. Mais cette nomination n'ayant pas satisfait tout le monde, il faudra d'abord que tous les salariés l'approuvent. Un vote aura lieu demain.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. L'artiste américain Chris Burden est mort hier à l'âge de 69 ans en Californie d'un cancer de la peau. Il avait été plus que remarqué pour ses performances provocantes dans les années 70. Il était ensuite passé à la sculpture, mais c'était à peu près la même chose.
Oui, au début des années 70, Chris Burden a 25 ans. Il réalise Shoot, sa performance la plus connue. Le concept est simple. Il est debout contre un mur et il demande à un ami de lui tirer dans le bras droit à l'aide d'un fusil. On l'a souvent assimilé à un artiste dangereux, capable par exemple de faire monter son public sur des échelles dans une salle remplie d'eau avant d'y jeter des fils électriques. Il avait aussi installé une énorme moto derrière les vitres qui donnent sur la fontaine Niki de Saint-Phalle au centre Pompidou. Mais la roue arrière de la moto prenait de la vitesse et elle pouvait donc finir par briser la vitre et se retrouver parmi les gens sur la place. Mais pour Marie de Brugerolles, qui était commissaire de l'exposition au centre Pompidou, ses œuvres violentes avaient un but bien précis.
C'était pas pour mettre en danger les gens et le public, c'était pour obliger l'institution à prendre soin de sa pièce et créer des tensions vraiment cinétiques. Donc c'est pas faire du mal aux gens, il a jamais voulu faire du mal aux gens ou mettre les gens mal à l'aise pour les mettre mal à l'aise, c'est plutôt révéler des tensions qui sont de l'ordre de jeu de pouvoir en fait. Pour lui, le travail de performance, c'est d'abord un travail de sculpture plus la dimension du temps. Et d'ailleurs, il pensait que les gens avaient parfois mal compris son travail parce que on a pensé qu'il voulait faire des pièces sensationnelles pour essayer d'attirer l'attention et qui était liée au public, alors qu'en fait, lui, il ne recherchait pas le public. Et la plupart du temps, il y avait très peu de gens qui assistaient à ses actions. Il se trouve que c'était des gens qui étaient là pour l'aider ou pour préparer, mais il n'avait pas en soi réellement une idée d'un public. Et ensuite, il arrête de faire des choses dites performatives, justement pour éviter le malentendu qui commence à y avoir par rapport à son travail, où on pense que c'est quelqu'un qui veut faire du scandaleux, du sensationnel et des actes violents.
Chris Burden, un artiste donc, dont le travail n'a pas toujours été très bien compris.
Oui, il est d'abord proche de l'art minimal après ses études avec le plasticien Robert Irwin. Pour valider son diplôme à l'université, il s'enferme pendant 5 jours dans un casier d'étudiants. Et plus tard, quand il est à son tour devenu enseignant, il poussait ses étudiants à bout pour que ne restent à la fin que les plus intéressés. Parfois, il n'en restait plus qu'un à la fin de l'année.
C'est ce que je devrais faire ici.
Ouais, c'est exactement ça, Laurent. Ce qui lui a valu une réputation de contestataire colérique, hein, comme l'explique Paul Ardenne, qui est historien de l'art à l'université d'Amiens.
Il a été en colère, comme beaucoup d'artistes de cette génération-là, mais pas vraiment dans ses œuvres-là. Il n'est pas quelqu'un qui veut contester fondamentalement l'ordre établi, en tout cas pas à travers ses sculptures. Bon, contrairement à ce qu'on pense, vous savez, on parle toujours de ces artistes performeurs violents, comme des gens qui brisent tous les tabous, qui au fond veulent aller au-delà des limites, dans l'extrême. Mais son œuvre n'est pas extrême, même Schutt n'est pas extrême en soi, puisqu'il n'a jamais été question qu'il soit tué par la personne qui tirait, qui d'ailleurs a tiré dans le bras, hein, donc sur le côté. Donc il était, oui, un artiste de proteste, plutôt dans ses travaux qu'il a fait pour la télévision. Il achetait des créneaux dans différents télévisions libres, hein, comme nous on avait eu le mouvement des radios libres, par exemple, en France dans les années 80. Très souvent, il apparaissait frontalement, donc, avec le drapeau américain à bannière étoilée derrière lui, et pour débiter souvent des choses très simples, très élémentaires, ou n'ayant aucun sens, des phrases du genre « la chaleur, c'est la vie », par exemple, ou « la science est morte », ou « la science a failli ». Donc c'est tout à fait curieux, c'est tout à fait décalé, mais on ne peut absolument pas dire que c'est protestataire, si vous voulez, ou ça l'est au second degré.
Voilà, une personnalité complexe, hein, comme l'a constaté Marie de Brugerolles, qui d'ailleurs l'a rencontrée. Chris Burden, elle nous l'a expliqué, s'est un petit peu retiré du monde et n'avait que très peu de contact avec l'extérieur.
Non, c'est à côté de Los Angeles, c'est un endroit qui s'appelle Topanga Canyon, qui est aujourd'hui un peu plus hippie chic, mais où il s'est installé très tôt dans les années 70. Il a vraiment construit sa maison. Il a vécu d'abord plus que très simplement et il a décidé de s'installer là parce que justement, il faut vouloir y aller. Il faut vouloir faire la route, sortir des routes traditionnelles pour s'engager un peu plus dans la nature, pour aller jusqu'à lui. Et il disait qu'il n'avait pas d'email, il ne répondait pas au téléphone, il ne répondait pas à ses lettres la plupart du temps, parce qu'il voulait vraiment voir jusqu'où les gens voulaient le rencontrer et il faisait la route pour discuter avec lui. Donc il testait beaucoup les gens, même ses propres amis.
Peu de contact avec l'extérieur, mais il signe quand même avec la galerie Gagosian au début des années 80, galerie prestigieuse.
Oui, et il est même le premier artiste à signer avec la célèbre galerie. Et bon, triste ou heureuse coïncidence, la première exposition de Chris Burden en France depuis 20 ans a commencé il y a seulement 2 semaines. On peut la voir au Bourget Gagosian jusqu'en septembre.
On passe tout de suite au bref.
Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Berlin n'ont pas réussi à élire leur nouveau chef. C'est le seul orchestre au monde à se réunir en conclave, un peu comme les cardinaux lorsqu'ils nomment un nouveau pape. Hier, les 128 musiciens se sont donc enfermés dans un lieu tenu secret de Berlin, portable et communication extérieure interdit. Mais surprise, ils ont annoncé après 11 heures de délibération qu'ils n'ont pas réussi à trouver de successeur au Britannique Simon Rattle, qui est leur directeur artistique depuis 13 ans. Ils se réuniront de nouveau dans l'année pour tenter de se décider.
Record du monde pour une œuvre d'art vendue aux enchères.
La société Christie's vient d'exploser son propre record en vendant un Picasso qui s'est arraché à 179 millions de dollars. L'œuvre la plus chère jusqu'à présent était un tableau de Lucien Freud vendu 142 millions en 2013. Les femmes d'Alger de Picasso, un tableau de 1955, devient ainsi la toile la plus chère jamais vendue aux enchères et c'est en fait un double record pour Christie's puisque dans la même vente, une sculpture d'Alberto Giacometti est partie pour la modique somme de 141 millions de dollars, le tout en 3 minutes.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une petite histoire de tourisme, de temple et de fesses à l'air. Alors, 3 touristes vont comparaître devant un tribunal cambodgien car ils sont accusés d'avoir pris une photo de leur derrière dans le complexe du temple d'Angkor au Cambodge. Il s'agit d'un Italien.
Hier, juste pour nous inviter, il était question de pornographie au Japon. Donc, pour dire qu'il y a quand même une sorte de lien tous les jours qui est en train de se faire.
Mais j'essaye surtout d'établir un lien avec Zoé Sfez, dont c'est la spécialiste pour trouver ce genre d'histoire.
Alors
là, ce qui se passe, c'est que c'est un Italien, un Argentin, une Néerlandaise. Alors on ne sait pas ce qu'il leur a pris, mais en tout cas, ils ont été arrêtés par un agent de sécurité. Ils prenaient des photos en montrant leurs fesses. Il a déclaré à l'AFP, hein, un haut responsable de l'autorité pour la protection du site et l'aménagement de la région d'Angkor. C'est lui qui les a pris sur le fait. Et il estime que leur acte a dévalorisé les temples, ce qui va leur valoir un procès. Mais ils ne sont pas les premiers, car fin janvier, 2 sœurs américaines avaient déjà été expulsées du Cambodge pour s'être prises en photo nues dans un de ces mêmes temples.
En fait, ça donne envie d'aller dans ces temples. Il doit s'y passer quelque chose puisque tout le monde a envie de se déshabiller pour aller les visiter. Merci Adrien, on se retrouve demain à la même heure pour le Journal de la Culture. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez commenter, Raphaël Baquet, de ce que l'on a écouté, et de votre côté, Mathieu Lindon?
J'aurais adoré être dans le huis clos de l'orchestre, enfin de la Philharmonie de Berlin, et vraiment raconter cette petite société, et s'y en trouver en vain. Manifestement, ils ont dû s'écharper puisqu'ils n'ont pas trouvé de nouveau chef d'orchestre. Ça, c'est vraiment un sujet merveilleux de reportage et d'enquête.
Ça devait être même le sujet du jour, mais en fin de compte, comme rien n'a marché, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire aujourd'hui.
Et les journalistes n'avaient pas le droit de
venir. Oui, j'imagine.
De venir, hein. Ils étaient devant.
Ça se reconstitue.
Oui,
ça avec des témoignages.
Exactement. Mathieu Lindon, quelque chose que vous voudriez commenter?
Non, rien de spécial. Je crois que vous avez fait les remarques qui s'imposaient.
Merci. Alors, on commence.
Le rendez-vous.
Il y a un changement rapide, profond, de la composition sociale de Sciences Po. Il y a à Sciences Po un vrai brassage social.
Plateau Pouvoir avec vous, Raphaël Baquet, vous êtes journaliste au Monde, auteur de plusieurs grandes enquêtes sur des figures majeures de la vie politique française, Ségolène Royal, le couple Strauss-Kahn, Jacques Chirac, et vous signez Ritchie chez Grasset, une nouvelle enquête sur un personnage, on va dire, romanesque, Richard Descoings, le charismatique directeur de Sciences Po, qui est entré en fonction à 37 ans et qui est mort à 53 ans à New York dans des conditions troubles. Entre-temps, il avait réussi à faire de Sciences Po, cette école du pouvoir à la française, une institution d'envergure internationale. Vous commencez par expliquer, c'est assez intéressant, que de son vivant, Richard Descoings ne vous avait pas spécialement marqué. C'est à son enterrement, qui a rassemblé toute la classe politique française, que vous avez compris l'importance du personnage. Comment vous, journaliste politique, vous êtes passé à côté de Ritchie au départ?
J'ai fait une erreur. Je n'ai pas perçu qu'il était cette espèce d'emblème de l'époque, au fond, cet homme de pouvoir, ce Rastignac d'aujourd'hui. Je suis passée effectivement à côté de lui et presque toute la presse d'une certaine façon, puisque seuls les journalistes spécialisés dans l'éducation ou l'enseignement supérieur s'intéressaient à lui, et il n'a jamais été perçu pour ce qu'il était, c'est-à-dire non seulement un homme de pouvoir, mais un homme de transgression, original, insupportable, à la fois cynique et révolutionnaire.
Qu'est-ce qui vous aura donc le plus marqué à cet enterrement ? Une cérémonie grandiose, hein, ce sont les premiers mots de votre récit. Avec le recul, en fait, qu'est-ce que cet événement a représenté ?
C'était une cérémonie incroyable. Il faut se souvenir qu'il y avait quand même 3000 personnes dans l'église Saint-Sulpice, 1 000 000 de personnes sur le parvis qui n'avaient pas pu rentrer, des étudiants en larmes, tout ce que compte la nomenclature française de ministres, de banquiers, de grands professeurs. Et puis, c'était une cérémonie très catholique, hein, vraiment avec le prêtre des parlementaires qui venait spécialement célébrer la messe, les étudiants catholiques de Sciences Po, et en même temps, au premier rang, au rang des familles, l'épouse de Richard Descoings et son amant, Guillaume Pépi, et chacun saluait les deux, cher Guillaume, cher Nadia, avant de commencer sermons et discours. C'était vraiment un spectacle tout à fait inédit et assez typique, au fond, de ce qu'est notre République française, avec ses accommodements, ses tolérances aussi, et voilà, ça m'a donné envie d'enquêter, d'autant que ce jour-là, effectivement, un professeur s'était penché vers moi et m'avait dit en latin, « Daemon est Deus inversus », c'est-à-dire le dieu et le démon sont deux visages inversés d'une même âme. Et au fond, c'était ça, Richard Descoings.
Mathieu Lindon, vous étiez de la cérémonie?
Certes, non.
Je me demande, parce que tout le monde y était. Vous connaissiez Richard Descoings?
Pas du tout.
Pas du tout. Même pas par réputation? C'était un personnage.
Je connaissais son nom.
Son nom, mais pas plus,
non,
pas
non,
plus que
rien
ça.
De plus.
Vous allez découvrir des choses. Vous ouvrez le livre sur une citation de Bernanos, lue par son ami Jean-Claude Casanova lors de ce fameux enterrement. Nous arrivons un jour aux portes du royaume de Dieu. Notre vie est déjà pleine de morts, et pour chacun, le plus mort des morts est le petit garçon qu'il fut. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef sans vétéran, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. C'est un extrait des Grands cimetières sous la lune. Qu'est-ce qui se dit là pour que vous le mettiez en exergue, cet extrait de Bernanos, Raphaël Baquet?
À la fois un peu, au fond, ce que les gens qui ont connu Richard Descoings ont pensé, c'est-à-dire que tout s'expliquait peut-être par le petit garçon qu'il avait été, et puis ça résume d'une certaine façon aussi le travail que j'ai dû faire, c'est-à-dire rassembler toutes ces pauvres années pour donner un sens à cette vie et faire de ce personnage ce que je supposais qu'il était, c'est-à-dire vraiment un personnage de l'époque.
On va rentrer plus profondément dans le personnage. Quel petit garçon il a été? Est-ce que vous avez eu accès à ce petit garçon?
Un petit garçon, c'est un vrai stéréotype, les débuts de Richard Descoings. C'est-à-dire que c'est vraiment un enfant, tout ce qui est de plus conformiste, dans une famille, tout ce qui est de plus privilégié. Il vit dans le septième, il fait ses études dans le sixième arrondissement, tous les grands lycées de la République. C'est un bon élève, un peu invisible d'ailleurs. Et ma première surprise a été que, en allant chercher un peu ses compagnons de Sciences Po et de l'ENA notamment, à ma grande stupéfaction, personne ne se souvenait de lui. Il était si insignifiant, si conformiste, si transparent à l'époque que vraiment il n'avait marqué personne, alors même qu'il allait devenir le personnage tumultueux qu'on a connu ensuite.
Alors justement, vous construisez le livre sur les contradictions de Richard Descoings, donc pur produit de l'élite, vous l'avez dit, Sciences Po, l'ENA, conseiller d'État. Il cherche pourtant à dynamiter l'élite en arrivant à Sciences Po. C'est un homosexuel assumé et pourtant il se marie à une femme dont il est amoureux. Sa vie se partage entre les ors de la République le jour et les fêtes, la drogue, les escort boys, certaines nuits. C'est un personnage avec lequel vous-même vous vous êtes un petit peu débattu, qui suscite chez vous des sentiments contrastés, on a pu le lire. Jusqu'à un moment donné, clairement, on se met dans sa tête, vous mettez dans sa tête. Il semble que ça se joue un petit peu au moment où il rencontre toute la bande du Cherche-Midi, avec donc Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault, et qui va rassembler plein de gens autour de lui, et tous ces gens seront à l'origine d'Aide. Alors quel rôle ce groupe-là a joué dans sa vie à lui, Richard Descoings ?
Je crois que ça lui a appris justement ce que les nains ne lui avaient pas appris, c'est-à-dire à la fois la vie et puis la confrontation avec la mort, avec cette épidémie du sida, avec un État complètement dépassé. Et au fond, ce haut fonctionnaire qui maniait à l'époque la langue la plus technocratique qui soit, rencontre un groupe de jeunes gens formidables, d'ailleurs que Mathieu Lindon en a connu certains, qui se sont réunis pour combattre le sida. Il y a parmi eux des médecins, des infirmiers, des intellectuels de l'époque. Et ils vont effectivement, je pense, déniaiser intellectuellement Richard Descoings et en faire ce qu'il est devenu après, c'est-à-dire un homme assez radical, assez combatif et soucieux du changement.
Vous dites que l'histoire de Richard Descoings, c'est aussi et surtout l'histoire de la visibilité des homosexuels en France. Ça passe par quoi ? De quoi la génération de Richard Descoings est-elle le symbole pour vous, Raphaël Baquet ?
En tout cas, lui, il est passé par tous les états, si je puis dire, qu'ont connu une grande partie des homosexuels des années 80 à aujourd'hui. Il est effectivement au départ caché, à l'ENA, il cache absolument sa vie, personne ne le remarque. Il est ensuite le fêtard de toutes les fêtes dans un Paris extrêmement joyeux et insouciant. Puis il sera le militant à Aide. Ensuite, il sera au contraire celui qui s'affirme et qui provoque aussi à Sciences Po. Il dit en pleine amphi, je suis le premier PD de Sciences Po. Et puis, cet homme ambivalent qui va dérouter d'ailleurs une partie de ses amis en épousant une femme. Et en affichant une sorte de cynisme et de volonté de jouer sur tous les tableaux, puisqu'il disait « je suis homosexuel pour ceux qui savent et hétérosexuel pour ceux qui n'ont pas besoin de savoir ». Il avait deux alliances et il a toujours mené cette espèce de dualité dans toute sa vie qui le caractérise.
Comment vous, dans votre travail de journaliste, vous prenez en compte l'homosexualité des hommes politiques ? Est-ce que c'est toujours un tabou ? Je vous pose cette question parce que je crois savoir que vous aviez eu le projet, à un moment donné, de mener une enquête sur les homosexuels au FN et qu'on vous en a dissuadé à l'époque, avant le outing de Florian Philippot dans Closer, qui a libéré pas mal de choses, je crois.
Oui, c'est vrai. Je crois que la presse est toujours un peu gênée. Soit elle a une attitude militante, si vous voulez, et qui s'est exprimée notamment au moment du mariage pour tous, donc pour ou contre le mariage pour tous. Mais elle a du mal à considérer quelque chose qui à la fois relève de la vie privée, évidemment, mais qui peut avoir des conséquences politiques. Et au Front National, c'était le cas. Je ne pense pas qu'il faille raconter la sexualité des hommes politiques. Il se trouve qu'au Front National, effectivement, si Marine Le Pen n'est pas allée aux manifestations contre le mariage pour tous, alors même que son parti prenait position contre, c'est aussi parce qu'elle était entourée, effectivement, de d'une quinzaine d'homosexuels qui l'avaient dissuadée de le faire. Et je pense que ça se raconte, ça s'analyse, c'est intéressant, à vrai dire, sur ce qui se passe et cette présence, cette influence que pouvaient avoir ses conseillers auprès de Marine Le Pen était aussi un sujet de contestation interne. Bref, pour moi, c'était un sujet politique.
Pourquoi on vous en a dissuadé? Quels ont été les arguments?
Parce que ça inquiétait, ça angoisse. Comment est-ce qu'on va parler de l'homosexualité? Est-ce qu'on va pas outer les gens? C'est toujours la question que se posent tous les journaux. Mais une question qui est très légitime. Hein. Simplement, c'est vrai que moi, je pensais qu'on pouvait le faire d'abord avec finesse. Enfin, j'avais en tout cas cette prétention-là. Et je pensais qu'on pouvait le faire en tout cas sous un angle plus politique et non pas sexuel, si vous voulez. Vraiment politique. Et c'est vrai que la révélation de l'homosexualité de Florian Philippot et aussi l'arrivée en fanfare d'un représentant d'une association gay a permis de pouvoir en parler très simplement.
C'est Closer qui a fait le boulot.
Alors justement, avant Richie, vous étiez déjà livré à des enquêtes sur des gens de pouvoir et en prenant en compte leur vie intime, les Strauss-Kahn avec Ariane Chemin et La Femme Fatale sur Ségolène Royal et les rapports qu'elle entretient avec François Hollande, vous dites qu'à l'époque où vous avez fait ces livres, la plupart de vos collègues du Monde vous sont tombés dessus parce que justement vous vous attaquiez à ce fameux tabou de la vie privée. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis, les choses de ce point de vue-là dans les médias ont évolué ?
C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu le sentiment de m'attaquer au tabou de la vie privée. Hein. Je fais des portraits, je fais des livres, donc je raconte des individus, si vous voulez, dans leur complexité et leur richesse. Donc je ne me vois pas parler de Richard Descoings comme d'un monsieur en costume gris ou de Ségolène Royal comme d'une pure politique ou Dominique Strauss-Kahn. Donc je raconte toujours ce qu'est un caractère, des valeurs, des convictions, des contradictions, bref. Donc évidemment, la vie privée, si vous voulez, peut rentrer en ligne de compte. En l'occurrence, pour Ségolène Royal, c'était évident que ça rentrait en ligne de compte, puisque ça pesait sur toute sa campagne politique, puisque elle, à un moment donné, la candidate socialiste ne parlait plus au patron du Parti socialiste. Donc évidemment, ça mettait en danger sa campagne. Et on en avait parlé avec Ariane Chemin, puisqu'elle était ma co-auteure. À vrai dire, c'est une bluette. Quand je le relis aujourd'hui, si vous voulez, c'est deux paragraphes incroyablement sobres. Vraiment, on dit pratiquement rien, mais ça avait fait scandale. Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la presse a évolué sur ce plan. Pas toujours bien, parce qu'elle ne s'est pas toujours dosée. Soit elle fait du closer, effectivement, soit elle... je sais pas, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Il faut raconter les choses telles qu'elles se produisent, quand elles ont un intérêt public. Voilà.
Vous avez un avis, Mathieu Lindon, vous qui êtes écrivain, mais aussi journaliste à Libération?
Je ne sais pas, j'ai en tête, c'est un léger décalage avec ça, mais à propos de l'affaire Closer et Florian Philippot, la chronique que Christine Angot avait faite dans Libération, où elle disait en effet, ce n'est pas sur le mariage pour tous que Marine Le Pen s'était singularisée, mais les meetings du Front National se singularisent par le fait qu'on y eu les journalistes à longueur de journée et que le vrai outing, c'était de dire que l'un des hauts membres du Front National, il vivait avec un journaliste.
Vous prenez largement en charge dans le récit Richie les informations que vous avez obtenues en off la plupart du temps et ça produit un basculement très intéressant vers une écriture plus romanesque. On bascule vers ce qu'on repère aujourd'hui dans une certaine part de la littérature française qu'on appelle l'exofiction ou la fiction documentée. C'est la personnalité de Richie qui a contaminé le projet.
Non, j'avais déjà fait ça, à vrai dire, juste par un livre précédent qui s'appelait Le dernier mort de Mitterrand, qui racontait l'amour fou, sublimé et tragique de François de Grossouvre pour François Mitterrand, et qui avait abouti à un suicide au cœur même de l'Élysée. Et au fond, j'avais déjà choisi à la fois de raconter une histoire où tout était vrai, mais en même temps, en tentant, et encore une fois, je ne veux pas paraître du tout vaniteuse, mais en tentant en tout cas d'adopter une forme plus littéraire, plus romanesque, parce qu'à vrai dire, le sujet s'y prêtait. Et Richie est exactement le même genre, si je puis dire, un genre qui est beaucoup plus pratiqué d'ailleurs bon, aux États-Unis, hein, qu'on appelle la non-fiction narrative, bon, et qu'on commence à voir arriver en France, et qui correspond effectivement à, je pense, une bonne façon de faire des enquêtes et de narrer, si vous voulez, la réalité qui nous environne d'une façon plus fine et plus subtile.
Vous avez des rituels quand vous écrivez un livre? Il y a un lieu, un moment de prédilection? C'est pas la même chose que pour écrire un article, mais pour un livre.
Oui, mais à vrai dire, je fais la même chose pour écrire un article. C'est-à-dire que j'écris la nuit, essentiellement, ce qui m'épuise. Et dans une toute petite pièce, très calfeutrée, généralement avec mon chat sur les genoux. Voilà, mais et hélas, en fumant beaucoup, moi qui ne suis pas une fumeuse.
C'est votre côté, Mathieu Lindon, des rituels aussi?
Non, je ne crois pas. Je peux écrire à peu près n'importe où et ne pas écrire n'importe où.
Zoé.
Alors justement, il est très difficile dans ce livre d'identifier exactement qui vous avez interviewé, quel est votre nombre de sources. On a quelques citations comme ça qui font comprendre qu'à un moment donné, peut-être vous avez rencontré les gens, mais on n'en est pas sûr du tout. Comment est-ce qu'il faut comprendre justement le fait de ne pas citer vos sources, qui peut vous être reproché par une partie de vos collègues d'ailleurs ?
Mais c'est un récit. Hein. Donc si vous voulez, je raconte l'histoire comme si j'étais une romancière, si vous voulez. Donc, je ne veux pas citer mes sources. C'est pas machin a dit que ce jour-là. Je trouve que ça alourdirait complètement le sujet et ça en enlèverait tout le charme, d'une certaine façon. Donc, c'est mon parti pris. Par ailleurs, il se trouve que dans un sujet comme celui-ci, qui est un peu délicat, où je parle notamment des milieux de la nuit, de la drogue, de l'homosexualité, beaucoup de gens... ne voulait pas non plus être cité. Donc, c'est vrai que ça simplifie les choses, ce système de récit, si vous voulez, mais les personnages principaux apparaissent sous leur réelle identité.
Est-ce qu'un tel récit passe entre les mains du service juridique de Grasset ?
Oui, un avocat l'a relu, Laurent Merlet, qui est d'ailleurs l'avocat de François-Marie Bagnier, ce qui était un élément amusant parce que je l'avais suivi par ailleurs dans l'affaire Bettencourt. Il l'a relu, voilà, il a...
Il y a eu des modifications à faire, on ne vous demandera pas lesquelles, mais est-ce qu'il y en a eu ?
À vrai dire, non. C'est-à-dire que soit on renonçait à publier le livre, soit on le publiait. Donc parfois, il m'a proposé de changer une ou deux choses. À mon grand étonnement, mais vous voyez, je ne peux même pas le dire au micro parce que justement, ça pourrait tomber sur le coup de la loi, mais il y avait quelque chose qui concernait l'enterrement, par exemple, de Richard Descoings, qui, pour moi, ne paraissait pas du tout pouvoir tomber sous le coup de la loi, mais parler de la mort, c'est vraiment une difficulté. Et donc, effectivement, par exemple, ça, il m'a conseillé de l'enlever.
Zoé.
Alors, Richard Descoings a un désir et une conception assez particulière du pouvoir, lui, puisqu'il aime le pouvoir un peu effectif. C'est lui qui a fait de Sciences Po un peu un lieu de pouvoir bien plus important qu'il ne l'était quand il est arrivé. Et par ailleurs, il refuse la proposition de Nicolas Sarkozy de devenir ministre de l'Éducation parce que justement, il a peur de ne pas avoir assez de pouvoir à ce poste qui est censé être peut-être plus prestigieux. En quoi est-ce que sa conception du pouvoir à lui diffère peut-être de ce que vous avez pu observer par ailleurs, vous qui êtes journaliste politique et qui vous côtoyez ce pouvoir ?
C'est-à-dire qu'il a une double idée. Il a l'idée d'abord qu'il faut quand même rénover les élites et que ça, c'est très important, c'est sa conviction. Et puis, il a une deuxième idée qui est que au fond, on ne marque jamais plus l'histoire ou le monde qui vous environne qu'en frappant de jeunes esprits. Et donc, il est très passionné et très attentif à marquer des jeunes gens, au meilleur sens du terme, et à marquer leur vie, notamment par les études qu'ils vont faire. Et donc, il a eu aussi une obsession de la jeunesse personnelle. Et donc, il choisit effectivement d'être le directeur d'une école parce qu'il sait bien qu'il marquera beaucoup plus des esprits qu'en étant ministre, par exemple. Ou au contraire, on termine généralement la tête au bout d'une pique et des manifestations dans la rue.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé, Raphaël Baquet, de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Ainsi, vous deviez tuer la reine à Valmar. Eh bien, vous avez exécuté vos ordres à Kranz. Vous deviez tuer la reine Stanislas. Vous l'avez tuée.
Moi, madame ?
Une reine admet-elle qu'on l'interroge ? Une reine admet-elle qu'on l'insulte ? Si elle l'admet, c'est qu'elle n'est plus une reine. Je vous le répète, Stanislas... Il n'existe plus de reine à Kranz. Vous l'avez tué.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Raphaël Baquet.
Alors, c'est un extrait du film de Jean Cocteau, L'Aigle à deux têtes, d'après la pièce qu'il a écrite lui-même, avec Edwige Feuillère qui joue la reine, et Jean Marais qui joue le poète anarchiste qui doit l'assassiner. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu dans ma vie. Et j'étais vraiment toute petite. Et ça m'avait absolument émerveillée. Et j'ai joué ensuite la reine quand j'étais lycéenne, dans des clubs de théâtre. Et je trouve que c'est très beau. D'abord, c'est une histoire de pouvoir aussi, de politique, de rupture entre deux mondes, une reine et son ennemi qui pourrait au fond être son amant. Et je trouve que c'est très beau. Et l'interprétation avec ces voix qui ont disparu n'a pas vieilli à mes yeux.
Zoé ?
Alors, quand vous écrivez un livre d'enquête, justement, je sais, vous l'avez dit, que vous avez souvent des livres de littérature qui vous accompagnent, vous avez dit deux en général. Alors, pour ce livre-là, lesquels étaient-ce et quelle est leur fonction ?
Bah, c'est vrai que je lisais, par exemple, Edith Wharton, hein, chez Les Heureux du Monde, qui se passe dans la haute société new-yorkaise. Et au fond, ça me mettait une espèce de bain, si vous voulez, cette société fermée, qui exclut, au fond, celle qui est déshéritée. Donner une espèce de bain d'inspiration pour raconter un sérail à peine différent, qui est ce sérail de la haute administration française et du pouvoir à la française.
Et plus généralement, avec quel auteur vous avez des affinités ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont formé ?
J'en ai mille, si vous voulez, mais évidemment, tous les gens qui racontent des histoires de pouvoir sont à la fois passionnés autant par Balzac que par John le Carré, si vous voulez. Je pense que c'est tout ce qui permet de raconter l'ascension des hommes, leur façon d'être bouleversée aussi par l'histoire. Le docteur Jivago est un chef-d'œuvre, vous voyez, je pourrais vous en citer beaucoup. Mais c'est vrai que je pense qu'il est... Enfin, je ne sais pas comment Mathieu Lindon lui-même procède, qui est un véritable écrivain, alors que moi, je ne le suis pas, je reste une journaliste. Mais c'est vrai qu'être accompagné par un livre de littérature, quand on écrit soi-même un livre qui n'en est pas, hélas... Ça donne une espèce de compagnonnage agréable.
Mathieu Lindon, vous avez des livres qui vous accompagnent pendant que vous écrivez ?
C'est mon travail d'en lire et d'écrire dessus, donc oui, j'écris dessus. Oui. Mais non, j'essaye, au contraire, j'ai peur quand j'aime trop un livre qu'il reparaisse sous mon nom.
Dernière question, Raphaël Baquet. La semaine dernière est parue une tribune dans Libération intitulée « Nous, femmes journalistes politiques » qui dénonce les relations empreintes de sexisme, de séduction déplacée que leur impose une large partie de la classe politique masculine. Vous ne l'avez pas signée. Pour quelles raisons? Elle ne vous paraissait pas pertinente? Ou vous faites partie des femmes qui l'ont signée, mais de façon anonyme?
D'abord, je vais vous dire, j'ai pas été sollicitée. Donc j'ai découvert cette tribune quand elle est parue. Je suis pas contre, mais j'ai juste une petite gêne sur cette tribune, c'est qu'elle laisse peser l'opprobre sur tous les hommes. Je pense que quand il y a des hommes qui agissent de cette façon-là, d'abord il faut leur répondre. Pied à pied, il faut les combattre. Et puis, d'une certaine façon, il faut les désigner, pas dans une tribune, mais dire un tel dit ça, et c'est inadmissible. Là, on a le sentiment que ce sont tous les hommes qui se comportent comme ça. Or, ce n'est pas vrai, parce que je crois effectivement que, heureusement, les choses ont changé. Il y a toujours des malotrus, des salauds, des cons, si je puis dire, très trivialement. Mais quand même, ça s'est largement amélioré. Il y a toute une génération d'hommes qui se conduisent tout à fait bien.
Le rendez-vous.
C'est une équipe qui a une résistance incroyable. Ils ont une résilience, comme on dit aujourd'hui. Tout à fait hors du commun, et donc ils font le journal, et souvent le journal est pas mal, il est plutôt bon. Mais maintenant il faut le changer, il faut le transformer, ça se fait pas du jour au lendemain.
Plateau Libération, du jour au lendemain d'ailleurs, avec vous Mathieu Lindon, écrivain, critique littéraire et chroniqueur à Libération. Vous signez Jour de Libération chez POL, journal de bord de votre vie dans ce journal où vous êtes entré il y a plus de 30 ans. Vous ouvrez en novembre dernier, quand Libération change d'actionnaire majoritaire et que pour des raisons économiques, la nouvelle direction lance une clause de cession qui permet à tous les salariés de partir avec une somme avantageuse. Au total, une centaine d'entre eux vont choisir le départ. La question qui se pose, c'est rester ou partir, et cette interrogation, rester ou partir, revient de manière récurrente chez vous. Cela aurait pu être un bon titre à la Pérec, vous dites un ami pendant ce journal de bord, et c'est vrai que ça aurait été pas mal. Pourquoi vous ne l'avez pas choisi? Est-ce que même vous y auriez pensé?
J'y avais pas pensé, je souhaitais que Libération apparaisse dans le titre de toute façon. Non, c'est un ami.
Parce qu'il n'apparaît plus par la suite d'ailleurs, le mot de Libération dans le
journal. Oui, il n'apparaît pas tel que je le dis moi, mais il apparaît malgré tout parce que d'autres personnes parlent du journal. Mais moi, je dis le journal parce que pour moi, c'est le journal dans lequel je vais travailler, comme je suppose que Raphaël Baquet dit le journal pour dire
le journal où elle va travailler.
Enfin, c'est...
C'est tellement mieux que de dire « je vais au bureau ».
Oui. Et non, rester partir, c'est après, un de mes premiers lecteurs m'a dit « oui, c'est un titre à la Pérec que tu aurais pu prendre », et j'ai pensé ça, si ce n'est que je souhaitais qu'il y ait Libération. Mais c'est vrai que ce qu'il y a dans rester partir, c'est une interrogation qui déborde de beaucoup le cadre du journal. Pour moi, c'est parce que je mets quelque chose dans ma vie, dans ce travail, et je crois que rester partir, ça se pose en mille occasions de la vie, sentimentale, professionnelle, familiale. En vérité, tout le monde pas seulement les journalistes de Libération à ce moment-là, tout le monde est confronté à cette opposition, enfin, se dire est-ce que c'est possible d'avoir une nouvelle vie, en fait, une vie différente, et rester partir, c'est ça, il me semble que ça résume et que ça symbolise.
Zoé. Alors, tout au long de ce journal de bord, on découvre les visages des collègues qui vous ont accompagné tout au long de la carrière, ceux qui sont encore là, ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont morts, ceux qui ont tout simplement disparu. Ils ne sont à chaque fois évoqués que par leur prénom. Alors nous, parfois, lecteurs, on les reconnaît. Laurent, Laurent Geoffrin, Gérard, Gérard Lefort, plusieurs Alain différents, Claire, pour Claire de Varieux, Patricia Toranchot, etc. Qu'est-ce que l'effacement de leur nom de famille signifie pour vous à ce moment-là ?
Il se trouve que au journal, on s'appelle, tout le monde se tutoie, et au début, je trouvais ça un peu ridicule, mais à la fois, ça a quelque chose que je trouve très sympathique parce que ça inclut quelque chose sur les rapports hiérarchiques où, comme je dis, on peut dire tu m'emmerdes à son chef, ce qu'on peut pas toujours dire. Je suppose qu'on le dit moins souvent au monde, à tort ou à raison. Et les prénoms, c'est comme ça que ça se passe dans le journal. Alors j'ai gardé ça juste parce que c'était le plus naturel. Et en fait, je m'en fiche qu'on les reconnaisse ou pas. Enfin, que des lecteurs les identifient ou pas. Je crois que ça n'a aucune importance. C'est pas à ce titre. J'ai eu envie de parler d'un journal, du fonctionnement d'un journal, de journalistes, de ce que c'est que le travail d'un journaliste. Car en fait, c'est très mystérieux, je crois, pour des gens qui n'ont jamais travaillé dans un journal, à quoi les journalistes passent leur journée. Comment, en quoi consiste exactement cette profession, enfin cette activité. Et donc je donne leurs prénoms pour qu'on les différencie les uns des autres, mais qu'on les reconnaisse ou qu'on les reconnaisse pas, je dois dire, je crois que ça m'est égal. Oui.
Alors, te dire un journal, justement, c'est consigner la vie quotidienne du journal avec des personnages peu connus du public, les monteurs, c'est-à-dire ceux qui montent la une, le personnel du service photo, le joli garçon de l'accueil. Qu'est-ce que ce récit par le menu c'est dans les premières pages. Hein. Qu'est-ce que ce récit tenu par le menu du quotidien vous permet de dire du journalisme à l'heure où l'on parle déjà beaucoup de manière plutôt théorique de la crise de la presse et du journalisme en général, en fait.
Il est question du web aussi bien, puisque c'est ça ce qui se pose. Moi, j'ai voulu montrer une ambiance professionnelle et en vérité aussi, surtout, j'ai voulu à l'origine, c'est un projet assez autobiographique malgré tout. Je le commence le 7 novembre de l'écrire, de me dire je suis tellement mal, je suis tellement angoissé avec cette situation dans laquelle je me trouve que il faut faire le point, et d'une certaine manière, la meilleure façon de faire le point, c'est d'avoir tout ce que j'ai, les images merveilleuses que j'ai du journal, de voir qui datent, certaines sont anciennes, certaines récentes, mais maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va rester aussi bien? Ou un tout petit peu moins bien, qui serait déjà très très bien, parce que ça a été formidable pour moi. Est-ce que je peux voir comme ça, noter ce qui change? Est-ce que mes souvenirs, mais de raconter des histoires que je trouve tout à fait étonnantes, qui peuvent à la fois concerner des choses minables et des choses de grande envergure et beaucoup plus prestigieuses, avec des écrivains et de renommée mondiale ou que j'ai pu voir, ou de Samuel Beckett. Mais Samuel Beckett, c'est spécial parce que j'avais un rapport qui est aussi indépendant de Libération, même si c'est Libération qui en a fait quelque chose de spécialement particulier, puisque je raconte la fois où, pour la seule fois de sa vie, il répond à un journal, c'est la question « Pourquoi écrivez-vous de Libération ?» et c'est parce que je lui ai écrit cette lettre. Enfin, bon, mais ça me flatte, mais ça dit quelque chose d'autre du journal, plutôt, comme je le raconte, et de son rapport à lui au journal, et comme j'avais pu voir le rapport de Michel Foucault à Libération, et que c'était aussi quelque chose de particulier, que tous ces gens si particuliers aient un tel rapport avec ce journal où j'étais fier d'être, et je dis pas ça juste au passé, je crois que le livre est dépourvu de nostalgie.
Sans amertume, vous dites que vous l'écrivez sans amertume.
Oui, ça, je l'ai fait de l'intérieur.
Donc, il y en a
toujours. J'y suis toujours. Ben, il peut toujours y en avoir, ça, je crois. Vous m'avez l'air bien jeune, tout à coup, pour de penser qu'une relation si jeune puisse se dérouler si longue, sans amertume. Non, mais je
pointe simplement le fait que vous le mentionnez. Donc, si vous le mentionnez, c'est donc bien qu'il était possible de le faire avec amertume.
Je le mentionne pas dans le livre, mais je dirais sans nostalgie. Je pense que c'est quelque chose du ton du livre, alors qu'on comprend très bien qu'il aurait pu y en avoir, puisque ça fait 30 ans que j'y suis. Donc, le journal a changé, mais moi aussi, j'ai changé. Mais donc, j'étais parti sur quelque chose de biographique et de voir un peu les modifications du journal. Et là-dessus, je fais ce journal au jour le jour et arrive quand même le 7 janvier. Je me retrouve là au journal le jour de l'attentat contre Charlie, et dans l'activité, ce que c'est qu'un journal quand survient un événement de cette envergure.
et comment je m'y sens. Et c'est là que je vois que, de toute façon, évidemment, qu'il faut rester parce que c'est là que je suis le mieux et avec les autres journalistes qui y participent, et les journalistes et les gens de l'édition, les gens de, qui sont des journalistes aussi, mais avec l'administration. Enfin, avec ces gens-là, dans ce journal-là, je me suis senti à ma place et je m'y sens toujours à l'heure qu'il est.
Un commentaire ? Raphaël Baquet, sur ce que vous venez d'entendre.
Mais je comprends effectivement un journal. Enfin, évidemment, vos éditeurs sont chacun dans des entreprises, des universités, des écoles qui représentent quelque chose. Mais un journal, c'est plus encore que ça. C'est vraiment effectivement une famille. On a, ça vous permet de pénétrer d'autres milieux. Et je comprends que Mathieu Lindon soit attaché à Libération, qui par ailleurs a une identité vraiment très forte.
Vous étiez aussi, vous êtes aussi lectrice de Mathieu Lindon, écrivain. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, cette écriture-là ?
Ben, je trouve intéressant que justement, il mène de front les deux types d'écriture, enfin, et même à la fois l'écriture journalistique, l'écriture littéraire, et puis le regard sur d'autres écrivains. Alors là, vraiment, chapeau, j'imagine que ça vous nourrit d'ailleurs, c'est intéressant.
Est-ce que justement la critique littéraire a pu changer quelque chose dans votre propre façon d'écrire ? Mathieu Lindon, où il y a vraiment une imperméabilité entre
non, les pratiques. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'écris, j'ai peur justement d'être dans une position où j'avale tout, d'être extrêmement perméable. Mais j'adore être perméable aussi aux écrivains, et je trouve que ce qui me... C'est une des choses qui va contre mon départ aussi, de me dire de plus faire de critiques, c'est qu'il y a tellement d'écrivains que j'aime, que je me suis dit je peux passer ma vie à relire Racine et Montaigne, mais malgré tout, je suis contraint, et Proust, ou je sais pas, et Flaubert, mais je suis heureux d'être contraint par cette profession, cette activité de critique littéraire, à lire ce qui sort aussi. Je fais beaucoup des classiques dans ce qui sort, mais malgré tout, la littérature étrangère, de la littérature française, je sais pas, je reçois beaucoup de choses. Je suis content d'être plongé dedans, d'être contemporain, vraiment.
Zoé.
Le livre commence donc le vendredi 7 novembre et il s'achève presque un mois après justement le drame de Charlie Hebdo, le vendredi 6 février, sur finalement une évocation du patron et fondateur de Libération, Serge Daniel. Qu'est-ce que cette figure-là, elle prend en charge, Serge Julie, pardon, prend en charge pour finir justement ce livre avec elle, presque de manière assez abrupte, il faut le dire.
Très rapidement, dans l'écriture du livre, enfin, la question de la fin s'est posée. Dans la mesure où c'est un vrai journal, je voulais pas non plus qu'il y ait un coup de théâtre ou quelque chose de romanesque venu on ne sait d'où. Je voulais raconter vraiment la vie du journal aussi, et la mienne dedans. Et je pensais à un moment que mon départ allait être la seule fin possible, et quelquefois je le regrettais. Et puis Serge Julie a sorti à ce moment-là un livre qui est un dictionnaire amoureux du journalisme. Alors j'étais enchanté de le lire, d'acheter le livre, de le regarder, de feuilleter, de voir ce qu'il disait de lui.
Parce qu'il est à l'intérieur du livre.
Il est à l'intérieur du livre et ça m'a plu. Cette idée-là m'a plu, d'autant qu'il ne parle pas volontiers de lui. C'est pas. J'ai toujours eu beaucoup de respect, d'affection, même je peux dire pour Serge Julie, que je connais très peu malgré tout, mais enfin qui a été là la majeure partie du temps où moi j'étais à Libération, et qui a été quand même une personne qui a permis, personne ne peut nier à Libération d'être ce qu'il est, c'est-à-dire avec les rapports qu'il y a, avec cette image, cet esprit que symbolise cette, d'une certaine manière Libération, et auquel ce mot de Libération va assez bien. Et donc, en feuilletant le livre, puisque c'est un dictionnaire, on le lit pas de A à Z, j'ai trouvé des phrases qui me semblaient correspondre à quelque chose que j'avais voulu faire et à quelque chose qui me plaisait surtout, et de le talent, comment mêler le talent individuel et le talent collectif. Quand il disait, alors que lui aurait pu avoir de l'amertume plus que moi, puisqu'il était parti depuis des années dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'elles auraient dû être, quand il disait chaque matin j'ai du plaisir à voir ce journal paraître, et je me suis dit moi aussi j'ai ça, et puis j'ai écrit ce jour-là, je crois que c'était un vendredi, et j'ai fait pas mal, et je termine le soir, et je me dis le lendemain je continuerai ce journal, et le lendemain ça m'ennuyait. J'ai pas eu envie de continuer le journal. Et je me suis dit, en plus, je trouve que de terminer sur Serge Julie, j'y avais pas pensé, mais ça a un sens, alors basta.
Je reste sur cette question du journal intime, puisque vous dites que vous l'avez commencé au moment donc où cette question de partir ou rester s'impose à vous. Mais la pratique du journal intime, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant
Non.
Ah non. Donc ça, vous avez mis en place cette écriture-là pour
ça m'est arrivé très jeune. Il y a peut-être des moments où ça m'arrive, mais maintenant de plus en plus rare. Et ça a été comme une idée. Comme je le raconte au début du livre, je me dis, il faut être abruti comme moi pour trouver que c'est une idée, le journal intime, parce que Dieu sait que c'est pas une idée d'une originalité extraordinaire. Mais de la même manière que j'avais pu faire un livre quand j'étais amoureux dans un truc qui se passait pas, et je me suis dit, je vais faire un livre d'amour, comme si c'était une idée que personne n'y avait jamais pensé dans l'histoire de la littérature. Mais je trouve aussi, je vois à la fois le côté stupide de ça, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut faire.
Ouais, pour lui donner une véritable forme. Le journal intime, c'est quelque chose que vous pratiquez, les notes au jour le jour, que vous consignez pour plus tard, Raphaël Baquet ?
Je l'ai fait par période, mais sans avoir l'idée de le publier. Donc je pense que c'est différent. Quand on a l'idée de le publier, évidemment, on écrit...
Oui, là, c'était ponctuel. Ce qui était différent d'un journal intime, c'était de me dire, je commence maintenant, et puis ça va pas durer toute la vie. Enfin, c'est pour un laps de temps donné. Et puis, c'est sur cette question-là. Qu'est-ce que je fais avec Libération ? Et je vous dis, j'avais peur à un moment que l'écriture m'amène à en partir, et en définitive, l'écriture est mille autres événements, et le journal lui-même m'a amené à rester, et j'espère à juste titre, mais pour l'instant, comme je vous disais aussi, tout va bien.
Mais alors justement, vous écrivez que le lecteur du journal est une instance à la fois magique et prosaïque, étrangère et familière, mais qui peut aussi devenir un ennemi, puisqu'il a beaucoup changé, ce lecteur. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ?
Je dis pas ça du lecteur de Libération en général, je pense que je dis ça du lecteur de Libération en particulier, je dis ça du lecteur en général, à l'époque où la presse maintenant fait des études d'opinion, et alors on se dit, les journalistes, il s'avère que le résultat de l'étude d'opinion, c'est que ce journaliste-là est plébiscité, ce journaliste-là aura tendance à trouver que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette étude, mais si on dit qu'il faut supprimer ces pages-là, on trouvera que c'est une idiotie d'avoir demandé l'avis au lecteur. C'est comme ça, je sais pas, je raconte des histoires, ce serait trop compliqué de les résumer là, mais en faisant un peu l'imbécile, et j'espère avec un certain humour, le rôle du lecteur. Mais de toute façon, je crois que pour un écrivain aussi, c'est une instance à la fois prosaïque et magique, le lecteur. On n'en sait rien du lecteur, et c'est pour ça qu'il y a, je sais pas, il y a parfois des rencontres avec les lecteurs, mais on voit bien que les lecteurs qui vont à ces rencontres, ils ne symbolisent pas forcément, ils ne représentent pas nécessairement l'ensemble des lecteurs. Et personne ne représente l'ensemble des lecteurs.
Raphaël Baquet ?
À vrai dire, ce qui a changé justement dans la presse, c'est l'intrusion de lecteurs qu'autrefois on ne voyait que par intermittence, qui vous écrivaient bien sûr, mais comme vous le savez, la lettre permet d'atténuer les propos ou en tout cas de les nuancer. Aujourd'hui, il y a des commentaires sous les articles, et donc on est d'une certaine façon à la merci de lecteurs qui viennent comme ça, qui peuvent passer leurs humeurs. Vous pouvez voir aussi le nombre de lecteurs qui lisent votre papier, combien de temps ils passent dessus, à quel paragraphe il s'arrête de le lire. Et tout ça crée une espèce d'audimat constant, si vous voulez, pour le journaliste, alors qu'avant, quand je dis avant, c'est pas Mathusalem, hein, c'est il y a moins de 10 ans. On écrivait tout à fait sans... avec le souci, évidemment, de s'adresser à notre lectorat, mais sans ce retour, parfois, qui est une pression difficile.
Vous y êtes sensibles, tous les deux ?
Moi, je trouve que c'est insupportable.
Oui, il y a quelque chose. C'est comme pour un écrivain, juste quelqu'un qui vous dit « j'aime pas votre livre », on se dit « qu'est-ce qu'il vient se mêler de me donner son avis que je lui ai pas demandé ?» Si les gens qui n'aiment pas, il y a toujours une volonté d'être désagréable. Et donc, même si ce qu'il dit n'est pas nécessairement convaincant, la volonté d'être désagréable, on la reçoit toujours de plein fouet, je trouve. Mm-hmm.
Alors, on vous a demandé d'apporter un son, vous aussi, Mathieu Lindon, comme à tous nos invités depuis le début de cette saison. Et voilà ce que vous avez choisi.
Identification de ce son, Mathieu Lindon, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
C'est une scène de La Nuit du Chasseur, le film de Charlton, l'unique film de Charlton qui est un film tellement particulier que je suis loin d'être le seul à l'adorer. Je crois que on pourrait faire comme on avait dit pour Au-dessous du volcan, une amicale des gens qui trouvent ce film un chef-d'œuvre spécial. C'est une scène où John, je crois, le petit garçon, est parti avec sa sœur Pearl parce qu'il redoute Robert Mitchum. Ils sont réfugiés, je crois, dans un grenier puisque le plan doit être pris à travers l'entrée aussi du grenier. On voit Robert Mitchum, qui est le méchant, arriver à cheval en chantant ça. Et le petit garçon qui fuit depuis des minutes et des minutes de cinéma, mais dit en le voyant, mais il ne dort donc jamais. Et juste, il n'a pas d'avance, le petit garçon. Ça veut dire, il trouve tout à fait normal que lui, malgré son jeune âge et sa sœur sur les bras, il ne dorme jamais, mais qu'un adulte à cheval ne dorme jamais. Ça lui semble étrange.
Et pourquoi ce son vous marque autant?
J'adore ce film et je vous dis, c'est cette scène-là, j'aurais pu faire le don't de la fin quand le petit garçon laisse enfin échapper le butin pour lequel son père est mort. Mais je vous dis, ce qui me plaît, c'est cet état dans lequel il est, de trouver tout à fait normal de ne pas dormir lui, mais d'être tout à fait étonné que quelqu'un d'autre puisse faire la même chose. J'ai peur quand j'aime trop.
C'est un vrai stéréotype.
J'ai peur quand j'aime trop.
Ça angoisse.
Je crois que ça m'est égal.
Merci à nos invités. Raphaël Baquet, Richie, apparu aux éditions Grasset. Mathieu Lindon, Jour de Libération, c'est aux éditions POL. Je signale que votre roman, Une vie pornographique, paraîtra le 31 mai chez Folio. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
J'en ai chié autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
Demain, un autre Lindon, Vincent Lindon, pour une émission cinéma-cinéma avec à ses côtés Sarah Chiche. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Zoé Sfez, Aïssa Touendeuil, Elsa Béranger, journal de la culture Adrien Nazelli, à la prise de son Stéphane Poitvin et à la réalisation Lise Combe.
Il est temps de nous quitter, vous êtes sur France Culture. Ben, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.